Donc, vous avez répondu à une invitation du pôle Aquitaine de l'Institut des sciences de la communication du CNRS. Donc, un organisme qui est situé, dont la base est située à Paris, dont l'image emblématique est Dominique Volton, qui n'a pas pu venir aujourd'hui parce qu'il a bien d'autres occupations en cette période électorale ou préélectorale. Et donc, l'ISCC, je vais le désigner sous ce sigle-là, l'ISCC donc, a un pôle Aquitaine et pour certains d'entre vous, vous avez déjà assisté à des présentations de livres qui ont été faites ou alors à des tables rondes qui avaient été organisées dans un temps plus heureux où nous n'avions pas la concurrence de personnages extrêmement médiatiques et donc où nous avions pu avoir les salons du troisième ou quatrième étage. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons une séance qui est ici organisée autour d'Anne-Marie Lolland, qui est un professeur honoraire de l'Université de Bordeaux 3, mais qui me semblait particulièrement bien placée pour animer le débat qui va mettre en scène donc Saber Mansouri et Maria Santos Sainz. Elle vous les présentera de façon plus précise tout à l'heure. Alors, pourquoi cette Anne-Marie Lolland est-elle particulièrement bien placée? D'abord parce que c'est la fondatrice du pôle Aquitaine de l'ISCC. Maintenant, elle a regagné les brumes parisiennes, mais elle a laissé donc ce pôle et elle le fait vivre aussi, même de loin, et souvent elle est présente. Et donc, il me semblait que c'était important qu'elle revienne ici sur les lieux, non pas du crime, mais de la fondation de l'ISCC pôle Aquitaine. D'autre part, elle est très représentative de la philosophie de ce pôle de l'ISCC, c'est-à-dire qu'elle est vraiment ancrée dans la multidisciplinarité. Multidisciplinarité qu'elle représente particulièrement bien, puisque après avoir fait des études de philosophie et l'avoir enseignée pendant de nombreuses années, elle a ensuite fait une thèse de troisième cycle en psychologie, puis une thèse d'état en sociologie. Donc vous voyez qu'elle a parcouru une gamme très importante de disciplines, et à ce titre, donc, elle est particulièrement bien placée pour aborder un certain nombre de thèmes. Elle est aussi très bien placée parce qu'elle est très ancrée dans le multiculturel. Alors, bien évidemment, elle a un ancrage dans le Sud-Ouest, un ancrage très fort, puisqu'elle a même été conseillère municipale à Uzest et qu'elle y a gardé une propriété qui lui est très chère. Elle a fait toutes ses études primaires, secondaires au lycée Camille Julian, bien connu des Bordelais, et ensuite elle a intégré l'université de Bordeaux 3, à la fois comme étudiante et puis plus tard comme professeure, et donc cet ancrage est très profond et elle y tient beaucoup. D'autre part, elle a après pris ses marques à Paris, où elle a été amenée à avoir des fonctions extrêmement importantes, puisqu'elle aura peut-être l'occasion de le signaler, mais elle a eu toutes sortes de casquettes à l'UNESCO, dont on sait évidemment le rôle dans la multiculturalité, mais elle a également été par deux fois présidente, elle a eu deux mandats de présidente de la Société française des sciences de l'information et de la communication, qui est une instance nationale qui, comme son nom l'indique, est très présent dans les sciences de l'information qui sont eux-mêmes une interdisciplinarité. À l'heure actuelle, elle s'est repliée de façon plus prioritaire sur Paris et elle continue donc à participer aux activités de l'ISCC dans son pôle parisien, mais également à la revue Hermès, qui est la revue que vous connaissez peut-être, qui est elle aussi très présente dans les sciences de l'information et de la communication, mais plus largement dans toute une série d'autres sciences et dans les thèmes qui abordent la multiculturalité. Au-delà de Paris, Anne-Marie Lolland a parcouru le monde entier et elle en a toujours trouvé de grands bénéfices et elle a beaucoup réfléchi justement à cet ailleurs et elle a une formule qu'elle a plusieurs fois répétée, l'ailleurs existe, je pourrais même préciser, elle l'a rencontré et simplement elle a cherché aussi à partager avec tous ceux qu'elle rencontrait toute une série d'idées, toute une philosophie, si je puis m'exprimer ainsi. Et elle a dit de façon très claire qu'elle pensait que l'autre, telle qu'elle l'a rencontrée ailleurs, ici ou même plus loin, devait avoir les mêmes droits qu'elle. Elle dit dans une formule célèbre, il doit avoir les mêmes droits que moi, cet autre. Et donc, ce vivre ensemble dans la multiculturalité, elle l'a pratiqué de façon très concrète. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous lui laisser la parole pour animer cette table ronde qui aura donc pour thème principal ce thème que nous avons choisi aujourd'hui. Alors, non pas aujourd'hui, mais il a été choisi il y a plusieurs mois. Et évidemment, l'actualité fait qu'il rencontre des échos tout à fait particuliers, mais on va s'en tenir donc au cadre scientifique pour aborder des propos qui peuvent être parfois controversés. Mais nous sommes ici dans une instance qui se veut quand même un peu protégée et à l'abri de toutes les très grandes controverses. Je vous laisse la parole. Anne-Marie, merci. Je remercie aussi beaucoup une nouvelle fois Nathalie Pinède qui a assuré toute l'intendance de la rencontre, qui est la secrétaire dévouée de l'ISCC Pôle Aquitaine. Merci en tout cas aussi aux participants à cette table ronde et je laisse tout de suite la parole à Anne-Marie Lolland.
Merci Annie Barre. Vous êtes tous venus pour entendre parler de l'image de l'autre. Et je suis confuse qu'on vous ait imposé avant l'heure mon éloge funèbre. Je suis toute surprise et je ne me souvenais pas de ce que tu as cité. Mais je suis d'accord sur un point. Le respect de l'autre, l'existence de l'autre et de l'ailleurs. Et ce sont bien des problèmes de communication. À l'ISCC que dirige Dominique Volton, nous parlons de plus en plus souvent de l'incommunication, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de techniques de communication et de plus en plus de conflits, de montées de haine, de montées de violence. L'actualité récente en est un triste témoignage. Mais je voudrais vous rappeler le titre d'une pièce de théâtre célèbre de Jean-Paul Sartre. Ça s'appelait « L'enfer, c'est les autres ». Et un certain nombre d'entre nous, garçons ou filles, ont pu connaître la difficile expérience d'entrer comme gendre ou comme belle-fille dans une famille, y compris à Bordeaux, et où on est toujours un peu une pièce rapportée. C'est ceci pour dire que être autre et venir d'ailleurs, c'est une expérience que presque chacun de nous peut avoir faite, même si on n'a pas franchi la Garonne. Et le problème de l'actualité, c'est effectivement comment vivre ensemble tout en étant différent. Et je tiens à redire que le choix de cette table ronde sur l'image de l'autre, c'est un choix qui a été fait il y a, il me semble, 4 ou 5 mois, à partir d'ailleurs pour moi, de la lecture du livre de Saber Mansouri, les métèques sous Périclès, c'est ça, dans lequel, tout en ayant fait des études de latin et de grec, j'ai découvert que j'ignorais des pans entiers de la démocratie athénienne et qu'il, comme historien et comme helléniste, il raconte de façon extrêmement intéressante. Et je dirais que pourquoi les Espagnols ? Parce que Bordeaux, faut-il le rappeler, a connu une influence anglaise qui a duré 5 siècles. Je ne dis pas occupation, mais une présence anglaise. Et il faut savoir que Montaigne s'est beaucoup inspiré du contact avec les Anglais dans ses idées de tolérance. Montesquieu a été influencé par cette pensée anglaise et protestante lorsqu'il a écrit l'esprit des lois. Et nous savons que le commerce du vin et le commerce du bois de mine, c'est-à-dire des pins, ont été des occasions très fortes de liens entre Bordeaux et la Grande-Bretagne. Alors pourquoi est-ce que nous ne parlons pas des Anglais à Bordeaux ? On aurait pu parler aussi des Portugais à Bordeaux. Et nous avions demandé à une de nos collègues de parler des Italiens à Bordeaux. Et puis, dans l'actualité la plus récente, il y aurait d'autres formes d'immigration. Alors, on ne pouvait pas parler de tout, d'où ce titre plus général de l'image de l'autre avec deux exemples. Les Espagnols à Bordeaux, par quelqu'un qui est d'origine espagnole, Madame Maria Santos Sens, qui est directrice de l'école de journalisme de Bordeaux, mais qui est arrivée à Bordeaux, qui est venue d'ailleurs.
Voilà.
Et c'est par le contrepoint entre ce que Saber Mansouri, d'origine tunisienne, mais travaillant à Paris, et travaillant sur les Grecs, et puis Maria Santos, d'origine espagnole, mais travaillant à Bordeaux, c'est dans le contrepoint de ce qu'ils vont nous dire que peut-être nous aurons une autre image de l'autre, puisque dans les deux cas, les images de l'autre, des métèques, des étrangers, sont des images finalement positives. Donc, Maria, s'il te plaît, à toi.
Merci, merci beaucoup. Vraiment, je tiens beaucoup à vous remercier, les pôles ISCC Aquitaine, de m'avoir invité aujourd'hui, d'être ici chez Mola, ces lieux qu'on aime autant, avec autant de rencontres littéraires. Et merci beaucoup, vraiment. Et c'est vrai que... Et la présence espagnole à Bordeaux, c'est une vieille histoire qui date de très très longtemps. Bordeaux, il était toujours une terre d'accueil pour les Espagnols. Vous connaissez bien l'histoire d'Espagne, c'est une histoire parfois avec beaucoup des moments difficiles, beaucoup de guerres, beaucoup de confrontations. Et l'Aquitaine a été toujours les portes de l'Espagne, et c'est ici où depuis déjà le 15e siècle, on connaît les premières vagues d'Espagnols qui sont arrivées à Bordeaux. Je voulais, avant de faire un premier voyage aperçu dans cette image de l'autre des Espagnols à Bordeaux, si vous me permettez, juste vous expliquer pourquoi j'ai mené ce travail et l'origine du livre sur les Espagnols à Bordeaux. Ici, plutôt en étant journaliste, j'avais une grande curiosité en venant d'ailleurs, justement, de Madrid. Je suis madrilène, je suis arrivée à Bordeaux en 1989. Et c'est vrai que j'étais au départ très... j'ai connu un peu l'image qu'avait des Bordeaux, cette anglomanie également, par rapport à cette passé très intéressant d'échange avec l'Angleterre. Mais j'étais un peu étonnée aussi de pas entendre parler de la présence espagnole en sachant qu'il y avait un quartier très important que tout le monde connaît, un quartier qui se situe autour du marché des Capucins, où se trouve la route qui allait vers l'Espagne, qui avait pris une époque Napoléon au moment de la conquête d'Espagne. Et c'est vrai que je me suis dit, ça mérite quand même d'explorer un peu plus l'histoire, la présence d'Espagnols à Bordeaux. C'est un peu l'origine, justement, de cet ouvrage. Et également, faire un travail de récupération de la mémoire de tous ces gens que, voilà, ils ont laissé une empreinte en Bordeaux. Et c'était l'origine de ce travail que j'ai mené. Et donc, c'est vrai que les Espagnols à Bordeaux, ça a été jusqu'à les années 1967, la première vraiment communauté étrangère à Bordeaux. Et si vous voulez un chiffre, je peux vous donner. Donc, en 1967, on comptait juste à Bordeaux 65 000 Espagnols qui étaient dans les consulats d'Espagne. En sachant aussi que la France a reçu, dans l'ensemble, j'ai des chiffres également pris dans un des travaux universitaires qui étaient consacrés à l'immigration espagnole en France. Il y a eu en France, dans les années 60, vraiment 600 000 Espagnols émigrés, pour vous rendre compte à quel point les phénomènes des présences espagnoles dans les années 50 étaient très, très importants. Et cette communauté, comme je disais tout à l'heure, ils sont restés délimités au centre-ville, dans sept quartiers, qui est devenu un quartier de la Petite Espagne. Je ne sais pas si parmi vous, vous avez eu l'occasion de rencontrer, de vous promener dans cet quartier où la présence, les commerces, les petits restaurants, les salles de spectacle, c'était vraiment animée par les Espagnols, même à tel point qu'il y avait des bals, des fêtes aussi. Il y a un savoir-vivre populaire très sympathique qui était concentré dans cette quartier. Également, il y avait des sciences des cinémas, il y avait des débats, il y avait un centre culturel également et qui était dirigé par des religieux, des jésuites, El Solar, et dans lesquels la communauté espagnole, notamment des émigrants, ils allaient se rencontrer, mettre en place des échanges entre les uns et les autres. Mais il faut aussi signaler également qu'il y avait une autre présence qui était arrivée auparavant, assez importante également. Après la guerre civile espagnole, il y avait les républicains espagnols qui se sont établis à Bordeaux. Et également, il y a eu beaucoup de controverses, parce que c'est vrai qu'ils ne fréquentaient pas les mêmes lieux qui est El Solar, car bon, pour les Espagnols antifranquistes, c'était encore un rallonge, disons, de cette Espagne un peu plus nationaliste, catholique, ils avaient cet esprit anticlérical et qui les interdisait de fréquenter ces lieux. Mais bon, ces quartiers, il faut reconnaître que c'était un quartier très important qui, jusqu'il n'y a pas très longtemps, a donné cette ambiance un peu espagnole qui a inspiré même un ouvrage très connu de François Garcia aussi, Jour des marchés, qui récrée l'ambiance de cette petite Espagne dans cet quartier. Aujourd'hui, cette communauté espagnole s'est pratiquement volatilisée. Il reste quelques bars, les Dos Hermanos, si vous aimez les tapas, quelques petits bars. Mais la plupart des Espagnols, c'est ça qui est très important de remarquer, ils se sont tellement intégrés. On peut parler d'une immigration vraiment très réussie, dans le sens qu'ils sont vraiment, il y a eu beaucoup de mariages mixtes, et beaucoup d'Espagnols, tant des hommes comme des femmes, qui se sont mariés avec des Français, que ces enfants, ils sont déjà Français. Et finalement, ils ont amélioré ces conditions de vie, ils ont quitté ces quartiers pour s'établir dans la périphérie bordelaise. Il y a une communauté espagnole très importante qui habite à Floriac, où les mères Conchita Lacuey, justement, et aussi d'origine espagnole, et ses parents, c'était des républicains espagnols. Et on y trouve aujourd'hui et cette présence également dans l'annuaire téléphonique. Si on regarde dans les pages de la Gironde, on trouve des noms comme Garcia, Fernandez. Ils sont devenus presque des noms bordelais, français. Et c'est vrai que parfois, ça a été une immigration, comme je disais tout à l'heure, vraiment très importante. Mais ces quartiers qui a donné vie à cette communauté a changé dans les années. Il y a d'autres communautés qui se sont établies. Il y a eu la venue des Algériens, des Marocains aussi, des Tunisiens, des Turcs, des Kurdes également. Et dans ces dernières années, il y a eu d'autres communautés aussi venues d'ailleurs, qui se sont établies comme des Bulgares et des Roumains. Et il faut savoir aussi que c'est un quartier où l'habitat il est peu onéreux, donc ça permet également de trouver un logement aussi pas cher. L'identité latine, elle était très présente dans ces quartiers, mais c'était un quartier, un genre d'île, par rapport à une ville très marquée par une bourgeoisie, avec une autre manière de vivre, très tournée vers l'Angleterre. Donc ça fait partie aussi de cet oubli qui a eu historique envers la mémoire des Espagnols et la présence espagnole, et qui habitait donc cette bourgeoisie dans les beaux quartiers qui parfois jamais fréquenté cette petite Espagne qui était éloignée de la ville et éloignée de ses habitudes et de ses manières de vivre. Et je voulais aussi expliquer qu'il y a eu cette empreinte de cet quartier également à Bordeaux, et par un coup aussi dans les loisirs, et une manière aussi également des traditions culinaires, gastronomiques, qui a laissé une empreinte importante, même dans les vocabulaires également, dans la passion aussi de la culture espagnole par rapport à les courses des taureaux, par rapport à l'usage également des styles de musique, les bandas, etc. Il y a une empreinte aussi assez importante. Mais je souhaitais aussi voyager un peu plus loin dans l'histoire. Ça, c'est la première mémoire, les premières images qu'a eu des Espagnols à Bordeaux. Une image récente de ces Espagnols et plutôt émigrés économiques. Mais il y a eu d'autres exils à Bordeaux très importants dans l'histoire. Il y a eu aussi également à l'époque des Goya, toutes les Afrancesados qui sont arrivés à Bordeaux. Et la plupart, c'était des élites politiques et littéraires. On a eu des auteurs théâtrales comme Fernández Moratín, il y a eu des hommes politiques comme Manuel Silvela également, les maires de Madrid, il y a eu beaucoup et aussi des peintres. Et c'était, comme je disais tout à l'heure, une élite plus aisée qui s'établit dans les cours de l'intendance à l'époque. Donc c'était dans les quartiers plus huppés de la ville où il y avait une grande fréquence d'Espagnols, et des Espagnols qui ont eu l'occasion aussi d'être abonnés au Grand Théâtre, d'assister. Et cette époque-là, c'est vrai qu'il y a resté avec les symboles, l'image des Goya, mais toute la communauté qui allait aussi avec. Bon, il n'y a pas eu beaucoup des travaux non plus d'images d'Espagnols. Ça s'est volatilisé également dans l'image et la présence espagnole. Et pourtant, ça a été très important. Il y a un nombre très important aussi qui ont séjourné à Bordeaux. Et même des Espagnols venus de l'Amérique du Sud, et même des familles, des négociants très riches. J'étais étonnée quand je suis arrivée à Bordeaux, découvrir que, par exemple, un symbole de Bordeaux, la galerie bordelaise, il était créé et financé par des riches et négociants espagnols qui venaient des Mexique, de Veracruz, la famille de la Torre. Et au départ, les noms qu'ils portaient, c'était de la Torre. Mais finalement, les temps et l'oubli a changé les noms, et aujourd'hui, on connaît cet lieu de commerce, cette belle galerie comme galerie plutôt bordelaise. Donc il y a eu toute cette flux, comme je disais, des négociants, et avec une empreinte culturelle également très importante à Bordeaux à l'époque des Goya, avec tous ces peintres aussi et des intellectuels espagnols qui sont arrivés à Bordeaux. Et je voulais aussi parler d'un autre exil, et remonter encore dans l'histoire plus lointaine, à l'époque du XVe siècle, au moment de l'expulsion des Juifs séfarades en Espagne. On peut parler déjà de la première vague également des Espagnols qui ont choisi la ville de Bordeaux pour s'établir. À cette époque-là, c'était la plupart des médecins, des parlementaires, c'était également une élite, des gens qui très, très formés. Et même, je voulais vous dire, vous parlez tout à l'heure de la tolérance de Michel de Montaigne par rapport aux Anglais. Moi, je me suis permis dans mon ouvrage, suite à la découverte de la mère espagnole de Michel de Montaigne, parce que sa mère, elle était d'origine séfarade. Et Antoinette de Lopez, ça fait partie des trésors de cet ouvrage, de découvrir... Et beaucoup des choses de cette histoire de Bordeaux, parfois cachées. Et j'ai découvert que la mère de Michel de Montaigne, c'est vrai qu'il était d'origine, par le biais de son grand-père espagnol, c'était des séfarades qui avaient fui l'Inquisition espagnole. Ils se sont établis à Bordeaux, Antoinette López de Villanueva, c'était les noms de cette famille, qui sont devenus après des marchands aussi très, très riches, et qui avaient poussé donc, les pères de Michel de Montaigne, Pierre Riquem. Et je me dis, pourquoi pas cette tolérance, peut-être, pourrait venir de sa mère et de sa famille qui avaient fui l'Inquisition, les horreurs de l'Inquisition espagnole. Et peut-être, c'est vrai qu'il y avait une sensibilité de la part de Michel de Montaigne aussi pour les Juifs, et la manière dont son voyage en Italie s'intéressait beaucoup à la question des Juifs. Donc pourquoi pas,
peut-être,
il n'y a pas de limite. Donc même dans cette penseur qui reste emblématique, une référence, l'origine aussi étrangère par les biais de sa mère, ça reste aussi également intéressant et emblématique. Donc la présence séfarade et espagnole, c'était un moment aussi très important. Il y a eu beaucoup d'apports en philosophie, mais également dans les domaines de la médecine, dans les parlements. Et il y a des ouvrages qui méritent d'être relus également. Et je voulais donc, juste pour en finir, je préfère rester rester avec un message, un bel héritage aussi, même si tu es une communauté, moi, par rapport à les travaux que j'ai menés avec cet ouvrage, j'ai interviewé beaucoup des Espagnols, migrants économiques, mais aussi des exilés politiques, et j'ai senti, mais comme toutes les personnes venues d'ailleurs, ces difficultés au départ à être acceptées de l'autre, hein, et beaucoup de souffrances également. Et à l'époque, bon, il y avait cette crainte qui venait quitter les pains aux Français, comme on entend parfois, on a entendu dans d'autres époques aussi, sûrement à l'époque des Péricles, on a entendu aussi cette peur de l'étrangère qui vient ici enlever les travails. Et c'est vrai que par la suite, bon, il y a eu beaucoup de souffrances, et certains, il y a eu beaucoup de peu de tolérance, des insultes, j'ai entendu, bon, sale race, les Espagnols, les Rouges, par rapport aux politiques aussi également. Donc il y a eu cette difficulté dans les premières années vraiment d'être accepté, mais bon, ça fait partie aussi des difficultés qui ont toujours les personnes parfois qui arrivent, qui arrivent dans la misère aussi, et sans rien au départ. Il y a eu un investissement très important, beaucoup de travail également. Il y a eu, par rapport à l'immigration économique, la plupart, il y a eu beaucoup de femmes qui ont travaillé, on parlait tout à l'heure avant, pour préparer un peu les chances de la table ronde. Les Espagnols, il y a eu beaucoup de domaines dans lesquels ils ont travaillé, les femmes, il y a beaucoup qui sont investies dans les services domestiques, puisqu'il y avait, ils n'étaient pas formés, donc ils n'ont pas eu le choix. Il y avait et cette demande aussi, des main-d'œuvre. Également, et parmi la plupart des hommes qui sont venus, originaires de la région les plus délaissées de l'Espagne, du sud aussi, de l'Extrémadure également, ils ont pu travailler dans les bâtiments comme maçons, et certains après ils ont créé des entreprises, et même ça, ils ont connu une belle réussite. Et il y a eu aussi beaucoup d'Espagnols qui ont travaillé dans les vendanges et à Bordeaux. Certains, ils sont restés et travaillaient même aussi également dans des châteaux. Ils sont devenus des gardiens des châteaux. J'y pense aussi à quelqu'un, une famille des très connus, les chanteurs Luis Mariano, que sa famille, c'était des gardiens des châteaux, pour donner une référence de quelqu'un plus connu. Et suite à ces moments de difficulté, finalement, on peut parler d'une immigration qui a réussi vraiment, peut-être par rapport aussi à beaucoup de proximités avec la France, dans la culture également des Espagnols, dans des aspects aussi parfois... Et de tenir, par exemple, les Républicains, ils se sont très bien investis aussi dans la politique. Ces enfants, certains, ils ont pris des engagements auprès des partis politiques, dans les syndicalismes. Il y a eu des empreintes très importantes. Je peux citer Conchita Lacoy, mais d'autres élus actuels qui sont originaires des parents républicains. Donc il y a une lutte aussi qui a poursuivi cet amour aussi pour la démocratie et pour l'égalité, la fraternité, des valeurs qu'il y avait les républicains espagnols, qui ont permis aussi de s'investir tout de suite et s'intégrer également en France. Donc on peut parler d'une belle intégration, à tel point qu'aujourd'hui la communauté, il y a peu de lieux de rencontre, il y a eu quelques émissions de radio qu'il y a, la Ondas d'Espagne, mais bon, c'est toute une minorité. Il y a une proximité de l'Espagne aussi. Et il y a beaucoup qui ont eu la possibilité de rentrer en Espagne après la retraite. Ils ont souhaité d'y être, rentrer dans leur village. Donc il y a beaucoup des Espagnols qui sont rentrés en Espagne. Et les enfants qui sont restés ici, finalement, ils sont investis, c'est des Français, même s'ils ont ces partages de cultures entre les deux. Donc on peut parler de cette immigration comme belle réussite et un véritable terre d'accueil de la part des Bordeaux. Même si au départ, et dans les récits, il y a eu de la souffrance, évidemment, et des moments difficiles du régime, évidemment. Merci.
Merci beaucoup, Maria Santos. Et alors, je vais te poser une question impertinente, mais tu ne réponds pas tout de suite. Tu dis une immigration réussie, j'ai l'impression qu'ils ont perdu leur identité. Mais ne réponds pas tout de suite.
D'accord.
Alors, je vais demander à mon voisin de droite, Saber Mansouri, qui, comme on le voit peut-être, est d'origine tunisienne. Je ne sais pas comment il est arrivé à Paris, mais il est professeur à l'école des hautes études en sciences sociales Et il a aussi bien étudié le grec. Il nous en dira plus.
Bonsoir, je suis arrivé à Paris en octobre 1995 pour faire mes études de troisième cycle en histoire grecque sous la direction des Pères Vidanakés. Donc, sachant qu'en Tunisie, nous sommes plutôt des Romains plutôt que Grecs, donc je n'avais pas la possibilité de poursuivre des études hellénistiques en Tunisie. Et du coup, voilà, j'ai décidé de venir à Paris et je remercie le jour où j'avais pris cette décision. Voilà. Mais avant de parler de mémétèques, qui sont comparables aussi par quelques aspects aux républicains espagnols et démocrates, parce que mémétèques étaient aussi des démocrates, je commencerai, chère Anne-Marie, par une confession. Je n'aime pas l'actualité. Et j'ai tendance à lui tordre le cou parce que l'actualité, elle n'attend jamais, elle n'attend personne. Et puis, c'est vraiment une déesse sans qualité qui a fini par mettre à mort l'événement historique. Voilà. Cela dit, je pense qu'on peut parler de l'autre. Le mien, en tout cas, mon métèque, est un autre politique et juridique. Pourquoi peut-on parler de l'autre? Parce que, tout simplement, il rend possible la cité, il rend possible le vivre ensemble et la démocratie. Et j'ai tendance à poser cette question et trouver et avancer la réponse suivante. Alors la question « Pourquoi l'étranger nous vient ?» Je pense qu'il nous vient parce qu'il a une haute opinion de l'endroit vers lequel il y va. Alors, mémétèque, alors, je commencerai par deux images philosophiques. À en croire Platon, l'émétèque est un oiseau migrateur qui revient à la belle saison à Athènes, un peu menaçant, car attiré par les gains. Aristote opte, lui, pour la métaphore de l'âge pour définir l'émétèque. Alors, c'est un enfant pas encore inscrit à cause de son âge ou un vieillard libéré des charges. Donc, Aristote lui a amputé en quelque sorte l'âge adulte, l'âge souverain. L'émétèque serait donc un être incomplet parce que, homo economicus, comme disent, pour reprendre une formule de Max Weber, privé de ce qui fait véritablement l'identité de l'Athénien, à savoir l'activité politique et guerrière. Voilà à peu près ce que nous disent Platon et Aristote, qui dit l'histoire athénienne, la vraie. Alors, l'histoire nous dit que la réforme de la citoyenneté adoptée par Périclès en 451-450 a rendu la communauté civique plus fermée et permis d'isoler et définir une autre catégorie d'hommes libres, les métèques. Alors, étaient métèques ceux qui habitaient avec les citoyens. C'est vraiment l'étymologie du mot métèque. Et payer une taxe qu'on appelle les métoikion. Alors, les hommes payaient 12 drachmes par an et les femmes isolées payaient 6, la moitié. Alors, portant sur la personne et frappant les seuls métèques, les métoikion étaient la marque même de leurs conditions et fournissaient le moyen le plus pratique de contrôler leur état civique. Et ça permet aussi aux magistrats athéniens, quand ils faisaient des statistiques de la population, il suffisait de regarder les registres de ceux qui payaient cette taxe pour savoir combien il y avait de métèques, etc.
Donc ils étaient fichés, ils étaient en
caste. Fichés à la manière athénienne, si j'ose dire. De plus, ils versaient à Athènes, et ça, c'est très important, dès 378 avant Jésus-Christ, l'impôt direct extraordinaire, ce qu'on appelle l'aisphora en grec, c'est un impôt de guerre. Au IVe siècle, les métèques payaient la sixième partie de l'aisphora, c'est la sixième partie qui payait les citoyens. Alors, ces métèques étaient composés d'étrangers nés libres, installés à Athènes comme artisans et commerçants ou comme réfugiés politiques, et d'esclaves aussi affranchis qui deviennent après métèques, chacun ayant pour patron son ancien maître. Notons que les métèques étaient obligés d'avoir un patron, ce qu'on appelle le prostatès. Alors, les métèques étaient exclus de la propriété de la terre, donc ils n'avaient pas le droit à la propriété foncière, parce que pour Athènes, si vous voulez, le couple citoyen-terre est vraiment un couple immobile, c'est quelque chose de figé. Donc les non-citoyens n'avaient pas le droit à la propriété foncière. Alors, le problème, c'est qu'on a longtemps cru qu'ils avaient une seule raison d'être avec les citoyens, s'enrichir. Ah bon, voilà. Comme dit Platon, ils se déplacent à la belle saison parce qu'ils sont attirés par le gain, par le profit et toutes les activités économiques non agricoles. Et puis, longtemps, l'historiographie moderne a mis vraiment des frontières infranchissables entre les citoyens et le non-citoyen, en particulier les métèques. Aux citoyens, le citoyen était par excellence l'être politique, l'homo politicus par excellence, et le non-citoyen était celui qui travaillait et qui assumait la grande part du travail de type économique. Or, à regarder les choses de très près, la documentation historiographique de très près, on se rend compte que cette frontière est peut-être franchie. Et peut-être franchie, d'abord, en lisant d'abord véritablement les deux textes philosophiques qui ont pensé la cité et les citoyens d'une manière systématique, à savoir Platon et Aristote. Et je commencerai par Platon et la République de Platon. Et je vous inviterai, si l'occasion se présente à vous, de regarder les débuts de la République pour vous dire que ce texte, la République, est né paradoxalement chez un métèque. Le début de la République commence ainsi. Socrate, après avoir accompli un sacrifice au Pirée, rentre à Athènes, et Képhalos, un riche métèque athénien qui avait sa demeure au Pirée, le voit descendre, il envoie son domestique, il lui dit « tu vas chercher Socrate ». Voilà. Donc Socrate arrive, Képhalos lui dit « mais Socrate, comment ça se fait que tu viens au Pirée, tu ne passes pas nous voir, alors que notre maison est ouverte ?» Donc, Socrate s'installe et commence véritablement ce qui va être le sujet de la République, la question de la justice. Mais avant d'aborder la question de la justice, Socrate pose la question à Képhalos, lui dit « à quoi sert toute ta richesse ? Tu es un homme riche, à quoi ça sert tout ça ?» Il lui dit « ça me sert être autonome, ne rien devoir à personne, ni aux hommes, ni aux dieux. » Voilà. Et au moment où Socrate s'apprête à aborder ce qui va être véritablement le cœur de la République, la question de la justice, il dit à Képhalos, qu'est-ce que la justice selon toi? Et Képhalos de répondre, je suis désolé Socrate, j'ai mieux à faire, j'ai un sacrifice à accomplir. Il laisse Socrate, en compagnie de ses fils, aborder la question de la justice. Et quand on sait la fin de Socrate, condamné à mort sans avoir accompli la dette à l'égard d'Asclépios, rappelez-vous de cette phrase, « Je dois un coq à Asclépios ». Donc voilà, j'ai tendance à poser cette question, ça mérite d'être creusé. Pourquoi Platon fait naître la République chez un métèque? Pour l'instant, je n'ai pas de réponse définitive, mais ça mérite, je pense, réflexion. Et puis, l'autre figure philosophique, quand même, qui a pensé à la cité et la citoyenneté d'une manière systématique, vous prenez les livres Les Politiques d'Aristote, et dans le chapitre consacré à qu'est-ce qu'un citoyen, Aristote procède par élimination. C'est-à-dire qu'il élimine tout ce qui n'est pas citoyen et il s'appuie particulièrement sur la figure des métèques. C'est-à-dire que cette figure-là rend intelligible la définition des citoyens lui-même. Donc sans la figure des métèques, le citoyen, si vous voulez, reste une notion un peu ambiguë. Donc voilà, à peu près pour nos deux philosophes. Et puis, si on quitte ces deux figures philosophiques, parce qu'après tout, Platon et Aristote ne sont pas des historiens, et ils nous donnent à lire non pas une vision réaliste d'Athènes, mais plutôt une cité idéale, si on entre au cœur de l'histoire, on se rend compte que les métèques faisaient la guerre. Et une question immédiate qui se pose, qu'est-ce qui est plus important, faire la guerre ou voter? Je pense pour ma part que faire la guerre était plus important que voter. Et non seulement il faisait la guerre, parce qu'il faut rappeler quand même qu'Athènes, pendant deux siècles, le 5e et le 4e, le 5e, c'était le temps de l'Empire, l'Empire athénien, un empire qui a... dont le commencement véritable coïncide avec la fin des guerres puniques et puis la domination athénienne. Ces métèques faisaient la guerre pour justement participer à cet élan, l'élan de l'Empire, à la fondation de l'Empire. Et puis les métèques participaient aussi à l'effort guerrier dans un moment critique où Athènes n'était plus un empire, à savoir le 4e siècle. Parce que après la défaite d'Athènes en 404, dans la guerre des Péloponnèse, l'Empire n'est plus, les ressources financières issues de l'Empire ne sont plus, et du coup, on pouvait imaginer qu'en l'absence de cette abondance matérielle, les métèques pouvaient quitter Athènes pour aller à en croire, si on suit la logique de Platon, aller vers d'autres cieux parce que il y aurait de l'abondance matérielle ailleurs. Au contraire, ils sont restés quand même attachés à la cité. Et non seulement ils sont restés attachés à la cité, mais ils ont contribué largement aussi au rétablissement de la démocratie après les deux révolutions oligarchiques. Parce qu'il faut savoir que le régime démocratique a été renversé deux fois, dans le contexte de la guerre de Péloponnèse, en 411 et en 404-403. Et on a des textes, on a des inscriptions, surtout des décrets publics, où est clairement indiqué la participation active des métèques au rétablissement de la démocratie. Et d'ailleurs, il y a un très beau décret athénien, décret public, qui honorait tous les métèques ayant participé à la restauration démocratique après la seconde révolution oligarchique en 404-403, où le décret donne la liste de tous les métèques et leur métier. Et c'est vraiment un très beau texte, parce que la cité, là, rend un double hommage, à savoir l'acte, le geste politique, mais aussi les différents métiers pratiqués par ces métèques. Donc, faire la guerre sans voter, cela où je considère le métèque comme un citoyen non accompli, parce que fondamentalement, je considère sincèrement que dans l'Antiquité grecque, en tout cas pour ce qui concerne Athènes, faire la guerre, c'est plus important que voter. Parce qu'après tout, on vote souvent après le discours d'un grand orateur. Quand on a Périclès devant soi, après un discours d'une heure, j'ai envie de dire que c'est facile de voter. Alors que partir vraiment à la guerre, c'est quand même un geste plus consistant politiquement.
J'ai pouvoir.
Et puis, ça, en ce qui concerne en tout cas l'implication des métèques dans la guerre, mais il y a aussi une autre implication, c'est toutes les largesses faites par les métèques riches au profit de la communauté civique. Et on a des sources qui indiquait la participation des métèques à l'approvisionnement d'Athènes en blé. Parce qu'il faut savoir que Athènes souffrait terriblement du manque de ce produit. Et Athènes vivait du blé importé. Et d'ailleurs, pendant toute l'Antiquité, la cité interdisait de vendre le blé à l'extérieur. Et donc, on a des métèques, des riches métèques, qui contribuaient financièrement à l'achat de ce produit rare. Et ce qui les rendait, en tout cas aux yeux des Athéniens, aux yeux du discours athénien, des bons métèques, des métèques patriotes, au fond. Et puis, l'autre point très important, c'est la participation de ces métèques à ce que j'ai appelé dans le livre, à la circulation horizontale des idées. Parce qu'il se trouve que parmi ces métèques, il y avait des gens, des figures lettrées. Et puis, comme l'agora, ce qu'on appelle à l'époque l'agora, était vraiment un espace politique ouvert, horizontal, puisque les métèques habitaient avec les citoyens, puisqu'ils sont intégrés, entre guillemets, dans cet espace, parce qu'il faut savoir qu'il n'y avait pas de quartier, il n'y avait pas de zone géographique réservée aux métèques, et participent ainsi au dynamisme et au fond à la grandeur intellectuelle d'Athènes. Il faut rappeler, ça je l'ai oublié, que le Képhalos en question s'est installé à Athènes sous l'encouragement de son ami Périclès. Au fond, c'est Périclès qui l'a encouragé à venir s'installer à Athènes. Et puis, il y a une figure quand même exceptionnelle du métèque qui apparaît clairement dans le livre, c'est la figure de Lysias, grand intellectuel, démocrate, penseur et l'historien de la démocratie athénienne, parce qu'il faut savoir aussi que Athènes a certes inventé la démocratie, elle a certes fait la démocratie, mais les historiens sont confrontés au manque terrible d'une pensée démocratique. Il faut savoir que ceux qui ont véritablement pensé la démocratie athénienne, c'était des intellectuels antidémocratiques. Et on a beau chercher, c'est vrai, on a beau chercher, enfin, Platon, c'est vraiment l'intellectuel et philosophe antidémocrate par excellence. On a beau chercher une pensée démocratique comparable à celle totale, comparable à celle de Platon et d'Aristote, on ne la trouve pas. Et on l'a construit vraiment à partir des différents textes, à partir des différents fragments, en particulier des discours officiels d'Athènes, les décrets, etc., et surtout aussi à partir de ce qu'on appelle le corpus des orateurs attiques, Démosthène, Lysias, Échine et compagnie. C'est vrai qu'on est confronté à ce manque d'une pensée démocratique. Parce que c'est vrai, les historiens se résout à cette évidence. Oui, les Athéniens s'est contentés de faire la démocratie, non pas la pensée. Donc voilà. C'est vrai que c'est tellement naturel, mais ça ennuie beaucoup d'historiens qui essayent de reconstituer une pensée, une histoire de la pensée démocratique. Et enfin, voilà, et c'est peut-être le chapitre sur lequel on va débattre beaucoup, en fait. Athènes comme modèle. Athènes comme modèle, parce que Athènes était un modèle pour les hommes de la Révolution française, mais Athènes sert malheureusement parfois à des repères idéologiques, je dirais à des à une idéologie qui mettrait en avant le véritable commencement philosophique d'une certaine discrimination entre citoyens et non-citoyens, entre nationaux et non-nationaux. Et c'est vrai qu'on trouve une véritable pensée construite et bien fondée sur ce commencement grec, chez nos ancêtres grecs, qui, fondamentalement, ont théorisé cette discrimination-là entre citoyens et non-citoyens, entre nationaux et non-nationaux. Voilà.
Merci. La dernière phrase de Saber Mansouri m'est claire parce que dans mon enfance, j'entendais de façon très méprisante de quelqu'un qui ne parlait pas la langue correctement, etc. On voit bien que c'est un métèque. Et la petite fille de 8 ans que j'étais, je vois qu'il y a des têtes qui opinent. Je ne suis pas la seule à avoir entendu ça. Pour moi, enfin, le mot métèque était un mot péjoratif. Mais tu m'éclaires et je te remercie en disant qu'effectivement, c'est à Athènes qu'a commencé ce souci de la discrimination entre citoyens et non-citoyens et en quelque sorte le refus de l'autre ou faire de l'autre qu'il est incomplet. Je vais vous faire une confidence. Dimanche, il faisait très très beau et malheureusement, j'étais loin de ma terre natale. Alors, je suis allée me promener au jardin du Luxembourg, dans un endroit qui est, vous savez, le jardin du Sénat, et dans un endroit où je ne vais pas d'habitude. Et j'ai vu tout à fait à l'écart une stèle, que j'ai photographiée d'ailleurs, et qui dit à peu près, je cite de mémoire, « Les peuples des colonies, par leurs revendications de dignité et de justice, ont fortement contribué à forger la République française, qu'ils soient remerciés. » Je cite de mémoire, mais j'ai photographié la stèle, si vous voulez vérifier. Et donc ça revient à ce que vous avez dit l'un et l'autre, que la démocratie est, en termes de communication, la meilleure acceptation de l'autre et de l'échange possible des uns avec les autres, elle est née dans la souffrance et elle est née dans ces apports des étrangers, peut-être plus que dans la tête des intellectuels. Voilà la leçon que personnellement je retire de vos deux exposés.